Du vert foncé, mais dépendamment de la température, des fois, on voit plus ou moins bien. Peut-être, moi, ouais, celui du bas, je ne sais pas. On dirait que le soleil rentre par là. Alors, bonjour tout le monde. Je me demandais hier sur quoi le Seigneur voulait que je parle. Et puis là, je lis présentement. Es-tu correct? Oui. Je lis présentement la Bible en parallèle, l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, je me fiais un petit peu sur ma lecture pour essayer de trouver des idées aussi pour ce matin. Et puis, dans le Nouveau Testament, je suis dans 1 Jean. L'Ancien Testament, ouf, je me fiais pas trop là-dessus, je vais être honnête avec vous autres. Je suis dans les Chroniques. Si vous avez déjà lu les Chroniques, là, c'est une suite de listes généalogique, de liste de chantres et tout ça, et de résumé de ce qui a déjà été dit dans Samuel puis dans Roi. Alors, je ne me fiais pas trop là-dessus. J'avais hâte d'arriver au Nouveau Testament pour voir qu'est-ce que j'étais pour parler. Mais je me suis trompé. Le Seigneur fait toujours des petits clins d'œil. Dans la chronique, j'étais rendu à la dédicace du temple, la prière de Salomon. Et je me suis dit, ah, c'est bon. Ça me tentait de parler de ça, mais plus particulièrement du temple, de façon générale. Donc, c'est ce que je vais vous parler ce matin. On va pas aller dans tous les détails. On pourrait être ici pendant des heures et des heures, parce que je fais partie de ceux qui croient que chaque petit objet, chaque couleur, chaque élément dans le tabernacle, dans le temple, avait une signification. Mais on n'ira pas dans ces détails-là, ça serait trop long. On va quand même, par exemple, faire un petit voyage, si je peux dire ça comme ça. Parce que je pense que tout pointe vers l'Église, vers notre époque, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est pour ça que je vais faire des petits détours, je vais aller large quand même pour pouvoir regarder ça avec vous autres. Alors, excusez-moi. Le temple, c'est un peu le descendant, si on peut dire ça comme ça, du tabernacle. Tabernacle qui a été érigé dans le désert. C'est Dieu qui a demandé au peuple de faire le tabernacle. Tabernacle veut dire temple en passant, hein? Tente, excusez. C'était pas clair, hein? Donc, ils ont dressé le tabernacle selon les instructions que Dieu a données à Moïse. Alors, tout, même les vêtements du sacrificateur, tout ça, c'était tout donné des instructions à Moïse par Dieu qui lui-même donnait une vision de ce que c'était le temple dans le ciel, hein? Israël était dans le désert, donc il avait besoin de quoi de portatif. Alors, il y a toutes des instructions sur comment le transporter, comment le monter, comment le démonter. Mais, veux pas, il y avait besoin de quoi de portatif, de temporaire pour le déplacer de lieu en lieu. Alors, la construction du temple, du tabernacle, pardon, était là. Pardon. Lorsqu'ils sont arrivés en terre promise, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le tabernacle? Pas clair, clair, clair tout le temps. Il a été apparemment installé à différents endroits, Silo, Gabaon, puis peut-être d'autres endroits comme ça. Parfois, à un moment donné, David, quand il a conquis Jérusalem, il a amené l'arche à Jérusalem, mais le tabernacle, il n'a pas suivi. Il est resté quand même à Gabaon et tout ça. Donc, peu négligé, si je peux dire ça comme ça. On arrive à une époque, je fais l'histoire en résumé, quelques centaines d'années en 5 minutes. Donc, on arrive à une époque où ce que David, il se regarde, si on peut dire ça comme ça, et il voit qu'il habite dans un palais, puis il est mal à l'aise avec le fait que Dieu, entre guillemets, habite dans une tente. Lui, un beau palais orné et tout ça. Il se dit, on va construire une maison à Dieu, un tabernacle, un temple à Dieu. Pardon, pas un tabernacle, qui était la tente, mais un temple permanent à Dieu, qui démontre en même temps quoi? Que maintenant, il est établi. Il n'était plus nomade, il était établi à terre promise pour rester. En passant, qu'est-ce que le tabernacle et le temple plus tard représentaient pour les Juifs, selon vous? La présence de Dieu. OK? Ça représentait ben, deux choses, dans le fond. La présence de Dieu, une autre chose que je pourrais dire, là, c'est toujours dur d'aller dans les pensées de celui qui est en avant, mais une chose qui. Je pense que je vais ouvrir de la lumière en passant. Je ne sais pas si ça va nuire pour le projecteur, mais je pense que pour les caméras, des fois, ça peut faire une différence. Désolé. Donc, autre chose aussi, au niveau de sacrifice. Et je réfléchissais ce matin, ça m'arrive. Et puis, vous avez voir partout, tu sais, quand il y a des coupures au niveau du gouvernement, des choses comme ça, souvent les gens, la première place qu'on serait prêt à couper, c'est au niveau de ce qu'on considère parfois superflu. Culture, télévision, musique, des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'ils nous disent toujours? C'est important pour le peuple. La culture est importante pour l'identité du peuple et tout ça. Bien, c'est un peu ça pour les Israélites aussi, ce que représentait le tabernacle. Israël est un peuple différent des autres, avec un Dieu unique, monothéiste, le seul peuple qui était monothéiste. Et c'est toute l'identité, dans le fond, du peuple qui se retrouvait à travers de ça. Donc, tout ce qui est la structure au niveau de la façon de louer Dieu, de la façon de servir, de faire des sacrifices et tout ça, au niveau du tabernacle, c'était l'identité du peuple en même temps. Donc, ça représentait ces deux choses-là, entre autres. Alors, qu'est-ce que Dieu, si je reviens à David, qu'est-ce que Dieu a répondu à David? Je résume parce qu'on pourrait lire tout ça, mais ça serait long. Première réponse qu'il a fait, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais là, je vais le dire en bon québécois parce que les traductions n'ont pas été faites en langage québécois. Je t'ai rien demandé. En d'autres termes, Dieu était quand même satisfait du tabernacle qu'il avait fait construire. Dieu ne cherche pas, contrairement à d'autres, ou contrairement aux humains qui pensent que les dieux, parce qu'eux autres, il y avait plusieurs dieux, demandaient toujours des affaires grandioses, puis luxueuses, puis toujours plus grand que nature. Non. Dieu n'avait pas besoin de ces artifices-là. Quelqu'un derrière. Alors, la première réponse a été un peu ça. OK? Mais Dieu, connaissant le cœur de même de David, reconnaissant que David avait des bonnes dispositions en disant ça, bien, il était d'accord avec le projet de David. Il a même envoyé un prophète pour lui dire « Tout est beau, puis fais comme selon ton cœur, puisque Dieu est avec toi, Dieu va bénir tes démarches. » OK? Alors, la seule chose qu'il a dit, par exemple, négatif, si on peut dire ça comme ça, et c'est pas toi qui vas le construire. OK? Pourquoi? Parce que David, c'est un homme de guerre, il avait versé beaucoup de sang, tout ça. Alors, ils ont dit tout simplement, ça va être ton fils Salomon qui va le construire. Salomon qui veut dire, en passant, paix. Ça vient de Shalom. Donc, roi de paix. Alors, Salomon construit le temple. Dans l'histoire, jusqu'à maintenant, parce qu'on en attend un autre, mais jusqu'à maintenant, il y a eu trois temples. Il y en a qui en comptent quatre parce qu'ils comptent la vision d'Ézéchiel, là, mais ce n'était pas un temple physique. Donc, il y a eu trois temples dans l'histoire, à part le tabernacle. Le temple de Salomon, le temple sous Zorobabel et le temple d'Hérode. Temple de Salomon, celui qu'on va garder tantôt, il a été brûlé, incendié lors de la déportation à Babylone, dans cette période-là à peu près. Le temple de Zorobabel, c'est quand ils sont revenus justement de Babylone. Ils ont reconstruit un temple, mais, comme on dirait en québécois, avec les moyens du bord. Donc, c'est sûr qu'ils n'étaient pas aussi majestueux et tout ça que ce que Salomon avait fait. Salomon est un règne assez prospère, donc il avait fait de quoi d'assez grandiose, là, qui était reconnu partout dans le monde de l'époque. Donc, ils ont construit un temple là. Et d'ailleurs, il y a des Juifs qui avaient connu le temple précédent, hein, puis qui étaient, comment dirais-je, je ne sais pas si je peux être découragé. Et un des versets, je crois que c'est dans Néhémie, « Ne négligez pas les petits commencements. » Là, je fais une parenthèse, je bifurque, là, mais on peut être parfois découragé dans la foi dans l'Église ou quoi que ce soit, la grandeur qu'on est ou quoi que ce soit. Ne négligeons pas les petits commencements. Hein? Le Seigneur, il est là, il est présent. Et il a bâti un grand peuple, un grand temple à partir de ce petit peuple-là. Il a commencé avec 12 disciples, en plus. Et maintenant, il est connu partout à travers le monde. Donc, il ne faut pas négliger ça, puis Je vous ai déjà conté une histoire, hein? Là, je m'éparpille, je lâche mes notes complètement, c'est pas grave. Quand j'étais plus jeune, je lisais des revues que ça s'appelle La Voix des martyrs, chrétiens persécutés, dans des pays souvent, parfois musulmans, mais souvent à l'époque, communistes, Roumanie, des choses comme ça. Et puis, racontait une histoire de cette revue-là de gens qui étaient dans le désert et qui étaient en train de mourir de faim. Mais il y avait un petit peu de nourriture, mais tranquillement, ça s'écoulait, bien sûr. Et là, il restait une petite poignée de riz pour nourrir tout le monde, ce qui n'était pas sûr passé. Mais il y en a un qui a dit non, on a une poignée de riz plus Dieu. Et ça fait toute la différence. Donc, ils ont prié tout ça, puis là, il y a des gens qui sont arrivés avec la nourriture dans le désert, imaginez-vous. C'est pas comme si on venait s'en aller à votre porte. Hein? Donc, Dieu peut faire des grandes choses. Donc, petit, mais plus Dieu, c'est infini. Hein? 0.0001 plus infini, ça donne quoi? Infini. Donc, on n'est pas limité. On peut toujours se réjouir, puis faire confiance, si on est dans les voies de Dieu, il sait où ça va. Peu importe d'où ce qu'on part, où ce qu'on est présentement, il sait où ça va. Et il nous amène au bon port, comme on dit. Donc, si je reviens au temple Zorobabel, ensuite de ça, Hérode est arrivé, Hérode le Grand est arrivé. Il a rasé ce temple-là, puis il en a reconstruit un autre pour plaire aux Juifs, dans le fond. Il a reconstruit un temple autour de 60-quelques avant Jésus-Christ. Et c'est le temple qui existait encore à l'époque de Jésus. Il était détruit en l'an 70 par les Romains. Et Israël n'a plus de temple depuis ce temps-là. Je ne rentrerai pas dans ça, parce que Stéphane il en sait plus que moi là-dessus. Il suit plus l'actualité, mais on parle beaucoup d'un autre temple qui s'en vient. Il y a des prophéties face au temple et tout ça. Ça fait partie du fait qu'on sait que le Seigneur revient bientôt. Beaucoup de choses qui se passent, qui ne se sont jamais passées dans l'histoire jusqu'à maintenant. Mais bon, ça, peut-être que Stéphane en parlera un jour. Comme je vous dis, il est plus connaissant que moi, il suit plus l'actualité que moi à ce niveau-là. Autre chose. Le temple de Salomon, bien, tous les temples, dans le fond, ont été construits à un endroit spécifique. Le mont Moria, Moria. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce mont-là? Vous en rappelez-vous? Deux événements spéciaux. Non. Arara. Proche de Salomon, il y a eu un événement qui a fait décider de mettre le temple à cet endroit-là. On va parler de celui-là en premier. David, son père, vers la fin de sa vie, a fait un recensement. Recenser le peuple pour savoir le nombre de peuples, le nombre de gens disponibles pour la guerre et tout ça. Ce qui a déplu à Dieu. Et Dieu l'a puni pour ça. Il a envoyé un prophète lui proposer trois fléaux possibles et tout ça. Il a choisi finalement le fléau pour le peuple. Il s'est sauvé la peau un petit peu. Donc, Dieu, il a amené la peste, il a amené des fléaux sur le peuple. 70 000 hommes, ça a l'air, peut-être, sans des femmes et des enfants, je ne sais pas. 70 000 personnes, que ce soit 70 000 hommes, 70 000 personnes plus, etc., peu importe, c'est énorme. C'est énorme. 70 000 personnes qui sont mortes de la peste à cause de ce péché-là de David. On parle de ça, 2 Samuel 24, le dernier chapitre de 2 Samuel, la Chronique 21 aussi, parle de tout ça. Je ne vous donnerai pas tous les passages, parce que je vous résume, mais je pense que vous faites confiance que c'est tout dans la parole. Et là, à un moment donné, une des raisons pourquoi que David a choisi ce fléau-là en passant, parce qu'il y avait la possibilité de maladie dans sa famille, tout ça, la possibilité de guerre avec ses ennemis, que ses ennemis remportent les guerres sur lui. Et ce qu'il a dit, c'est que Dieu est miséricordieux. J'aime mieux tomber de la main de l'Éternel. Et effectivement, lorsque l'ange de destruction, si je peux l'appeler comme ça, est arrivé à Jérusalem, il était dans Jérusalem, Dieu a dit, c'est assez. il y en a assez fait de dégâts. Et ce qu'on dit à ce moment-là dans le récit, l'ange se tenait au-dessus de ce qu'ils ont appelé l'aire d'Ornan. Ornan, c'est le nom du propriétaire du champ. Même David le voyait clairement l'ange destructeur qui était là puis qui était stationné au-dessus de cet endroit-là. Qu'est-ce que David a fait? David, en ayant vu ça, il a acheté le terrain et il a offert des sacrifices pour louer l'Éternel, mais en même temps un sacrifice de pardon, mais en même temps un sacrifice pour louer Dieu qui avait arrêté le fléau. Et suite à ça, il a continué à offrir des sacrifices à cet endroit-là et David a compris que Dieu voulait qu'il installe le temple à cet endroit-là. Donc, première raison, miséricorde de Dieu à cet endroit-là. Mais, bien des générations avant ça, il y a un autre élément très important qui a eu lieu à cet endroit-là. Et cet événement-là, on recule jusqu'à Genèse 22. Et c'est là qu'on va aller dans la parole. Genèse 22, ça vous dit quelque chose? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham! » Il répondit, « Me voici. » Abraham répond toujours présent. Hein? Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Quand j'avais parlé de ce récit-là, hein, c'est comme si le couteau s'enfonçait toujours plus profondément, hein, le doigt d'appeler. Hein? Il savait déjà, à ton fils, il savait déjà de qui il parlait. Ismaël, t'as parti. C'était le fils de la promesse, c'était Isaac. Il continue, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, pour ne pas le nommer. Va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Une des montagnes de Moria. Quel hasard! On n'a pas d'hasard avec Dieu. Hein? Dans la suite du récit, je ne vais pas lire ce récit-là, mais dans la suite du récit, vous vous rappelez, Abraham y va avec Isaac, monte sur la montagne avec les éléments. Il dit, « Oups, on a tout, le bois, le feu, tout ça, mais il est où l'agneau? » Dieu va se pourvoir de l'agneau. Hein? Et là, il arrive jusqu'au dernier moment pour sacrifier son fils. Son fils qui, en passant, il y a ce qu'on appelle dans la Bible des types, des représentations, des prémices, on peut dire ça comme ça, de Jésus. Isaac, à ce moment-là, en était un. Hein? Abraham, le père, avec son fils qui obéit, sans avoir nécessairement pour Isaac, en tout cas, ce qui était pour se produire, Jésus le savait, mais... Et Isaac restait soumis. Prêt à être sacrifié. Quand Abraham l'a attaché et qu'il l'a mis sur l'autel, je pense qu'il devait commencer à comprendre ce qui se passait. Et pourtant, il restait soumis. Jusqu'au dernier moment où ce que l'ange de l'Éternel, l'Éternel lui-même, si vous préférez, l'a appelé et lui a dit ceci, au verset 12. L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. » Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Contexte, faut pas oublier que Isaac, c'était le fils unique, le fils promis. Abraham avait 100 ans quand il l'a eu. Il a attendu longtemps. Et là, Dieu lui demande de le sacrifier. Ton héritier. Celui par qui je t'ai promis que tu aurais une descendance innombrable, là, tu l'as. Mais Abraham y a répondu. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, même celui que tu aimes par-dessus tout. On peut lire entre les lignes. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla le prendre, le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré, qui veut dire l'Éternel pourvoira ou l'Éternel pourvoit. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Qu'est-ce qu'Abraham a dit à Isaac en montant sur la montagne? Dieu pourvoira l'agneau pour l'Holocauste Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pourvu. Hein? Il a pourvu à l'agneau pour l'Holocauste. Et jusque-là, comme je vous disais, il y a tous des types du Père avec le Fils qui va offrir en sacrifice. Le Fils, comme je vous disais, Isaac représente jusqu'à un certain point Jésus. Jusqu'à un certain point. Parce qu'il y a une différence importante. Dans le cas du Père et du Fils du Nouveau Testament, si je peux dire ça comme ça, il était jusqu'au bout. Il n'y a pas de substitut. C'était lui, notre substitut. Donc, en même temps, le bélier représente Jésus qui a pris notre place. Dès la Genèse, dès le début de l'humanité, Dieu avait déjà préparé le plan, le sacrifice pour nous autres. Et là, si vous commencez à faire le lien, hein, Isaac, toute l'histoire autour du sacrifice de remplacement, du père qui offre son fils en sacrifice, jusqu'à David, où ce que Dieu a été miséricordieux puis a épargné le peuple à cet endroit-là, et il y a eu des sacrifices de remerciement et tout ça, c'est là que le temple est établi. Il n'y a pas un lien pour rien. Voilà ce que représentait le temple aussi. Ça représente tout le sacrifice, ça représente la substitution, la présence de Dieu, ça représente les sacrifices qui prenaient la place de du peuple, des gens du peuple, pour le péché. Ça représente tout ça. Donc, il y a toute une trame. Quand on dit qu'avec Dieu, il n'y a pas d'hasard, hein? Il y a toute une trame à l'arrière de tout ça. Pourquoi? Hébreu nous le dit, puis c'est ici, dans le fond, Lévitique. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça prenait du sang. Ça prend encore du sang aujourd'hui, sauf qu'il a déjà été versé une fois pour toutes, qu'il nous dit Hébreu. Donc, on n'a plus besoin de le refaire à toutes les fois. Ça a déjà été fait. Je voulais te garder avec vous, j'espère qu'on va le voir comme il faut, mais un petit peu l'aspect du temple. Ouf, ouais. Bon, je pense pas que changer, fermer la lumière change grand-chose, parce que ça n'avait pas l'air d'avoir grand effet tantôt. Mais bon, de toute façon, si je suis capable avec ça ici, je voulais le zoomer quand même un petit peu pour différentes parties. Ça va aider à le voir. Donc, à droite, on va revenir tantôt, on a le temple en tant que tel, et à gauche, je voulais quand même mettre l'emphase sur deux éléments qui sont là. Le petit 1 que vous voyez là, c'est l'autel des reins. En passant, tabernacle et temple avaient pas mal la même structure. Bien sûr, le temple était beaucoup plus luxueux. À l'intérieur, on avait 10 chandeliers plutôt qu'un, etc., etc. Mais le principe, la structure restait la même, fondamentalement. Donc, l'autel des reins qui servait à quoi? Tous les sacrifices. Les sacrifices de pardon, les sacrifices de communion, les sacrifices d'adoration, les holocaustes et tout ça, etc. Tout ça se faisait là. Le petit numéro 3 que vous voyez, c'était la cuve des reins. Cette cuve-là servait à quoi? À faire les lavages rituels, ce qu'on appellerait la purification. Ça nous donne un message, ça aussi. Ces deux choses-là sont à l'extérieur du temple. Avant même de pouvoir entrer dans la présence de Dieu, il devait y avoir deux choses. Le sacrifice pour le pardon et la purification. Sans ces deux choses-là, pas question d'entrer dans la présence de Dieu. S'il y en a qui ont essayé de le faire, en tout cas, ils l'ont probablement payé de leur vie. On a des récits dans la Bible. Parce que Dieu se fait justice lui-même. Donc, sans sacrifice, sans purification, pas question d'entrer dans le temple. Ça doit déjà vous sonner des petites références. Hein? À suite de ça, on rentre dans le temple comme tel. Bon, il y a des colonnes qui sont là. Je ne parlerai pas nécessairement des colonnes. Même si les colonnes ont leur importance. Hein? Il parle de colonnes dans le temple de Dieu, dans l'Apocalypse et tout ça. On rentre en tant que tel dans le temple par la suite, qui est la section, le petit 5 qui est là. Et il y avait plusieurs choses dans cet endroit-là. Premièrement, tout de suite, quand on rentrait dans le temple, c'est ce qu'on appelle le lieu saint. Cette image-là, je trouve qu'elle est plus belle, mais je pense que l'autre est peut-être un petit peu plus facile à voir. On a l'autel et la cuve, mais on a aussi, bien sûr, le lieu saint et le lieu très saint qui sont là. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du lieu saint? Bon, premièrement, chose à noter très importante, c'est pas n'importe qui rentrait dans le lieu saint, qui était la première, très bien qu'on rentrait dans le temple. C'était uniquement les sacrificateurs. Le peuple n'avait pas accès à l'intérieur du temple. Monsieur, madame, tout le monde, les Juifs, n'avaient pas accès à ça. Seuls les prêtres, les sacrificateurs, si vous préférez, avaient accès à l'intérieur du temple. Important, on va y revenir là-dessus tantôt. Tout ce que je dis fait référence à des choses qu'on va rementionner tantôt pour nous aujourd'hui. À l'intérieur du lieu saint, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait, entre autres, premièrement, le chandelier. Dans le temple de Salomon, il y avait 10 chandeliers. Ça éclairait, c'était grand, tout ça, tout pavé d'or. Ça devait être assez beau à voir, même si pas plus grand monde pouvait le voir. Dans le tabernacle, il y avait un chandelier à 7 branches. Qu'est-ce que ça représente, le chandelier à 7 branches? Le chiffre 7, hein? La perfection de Dieu, la plupart du temps. Et ça me fait penser, dans l'Apocalypse, on parle de quoi? Les 7 esprits de Dieu qui s'adressent aux églises, aux 7 églises. Quel hasard, hein? Il y a bien des hasards avec Dieu. Il y a tellement d'hasards qu'à un moment donné, ça n'en est plus un. Donc, il y avait le chandelier, la menorah. Autre chose qu'il y avait, il y avait une table avec des pains dessus. À l'époque de tabernacle, je pense à la même chose à l'époque du temple, il y avait 12 pains dessus, qui représentent quoi? Les 12 tribus d'Israël. Il faut se rappeler, bien sûr, c'était à l'époque d'Israël. Ces pains-là, c'était un rappel devant Dieu du peuple d'Israël. Bien sûr, on sait que Dieu n'a pas besoin de rappel, c'est une image, hein? Pour montrer que Dieu avait toujours constamment à l'esprit son peuple. Ça n'a pas changé dans le Nouveau Testament. Ça n'a pas changé en 2025 non plus. Il n'y a pas nécessairement 12, mais on est constamment à l'Esprit de l'Éternel. Ça, c'est une chose merveilleuse qui peut aussi nous réconforter, je l'espère. Sur ces 12 pains-là, probablement divisés en deux rangées, deux paquets, se trouvaient 2 coupes de vin. On fait un parallèle avec le Nouveau Testament, hein? Jésus n'a pas choisi le pain et le vin pour rien. Il faisait partie du quotidien. Mais toute la représentation qu'on avait déjà à l'époque du tabernacle et du temple, ça pointait vers Jésus. Oups, excusez-moi. Troisième chose qu'il y avait de cet espace-là, le lieu saint, la première partie qu'on voit avant les escaliers. Troisième chose qu'il y avait là, c'était l'autel des parfums. Sur cet autel-là, on faisait brûler des parfums pour être une odeur agréable à Dieu. Et qu'est-ce que ça représente, ça? Même on en parle dans l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament. Ça représente les prières des saints. Les prières qui montent vers Dieu. Donc, dans l'autel des parfums, il y avait les prières dans le lieu saint, dans la présence de Dieu, les prières qui montaient vers lui. C'est un symbolisme, en tout cas, de ça. Vient après ça l'autre partie. Je ne sais pas si je suis capable de pointer. La partie que vous voyez ici, où il y avait deux chérubins, des êtres ailés, tout ça, des visions dans Daniel, etc. On parle des chérubins, des anges, une catégorie d'anges. Représentation de ça. Et il y avait l'arche de l'Alliance. Du moins pour le temple de Salomon. Après ça, malheureusement, l'arche a été disparue. Fait que pour les autres temples, il n'y avait pas d'arche, assurément. Mais pour le temple de Salomon, pour le tabernacle, il y avait l'arche qui était là. Et qu'est-ce que ça représentait, l'arche? Directement, la présence de Dieu. Dans le tabernacle, hein, la nuée est descendue directement pour montrer que Dieu était maintenant là. Et ça a été la même chose dans la dédicace du temple. Les sacrificateurs étaient là, puis à un moment donné, oups, ils ont tous dû sortir parce que la présence de Dieu s'est manifestée là. Ils ne pouvaient plus être là, la présence de Dieu. Donc, ils sont tous sortis pour éviter de mourir, quoi, parce qu'on ne peut pas être la présence de Dieu et vivre en tant qu'être humain pécheur. Donc, ça représente directement la présence de Dieu qui était sur le coffre de l'Alliance. Coffre de l'Alliance qui contenait, si vous vous rappelez, trois choses. Principalement, les deux tables avec les 10 commandements, les tables de l'Alliance en tout cas, la verge d'Aaron qui avait fleuri dans le désert et une urne contenant de la manne. Et le coffre, le dessus du coffre, était ce qu'on appelait le propitiatoire. Vous avez déjà entendu ce nom-là peut-être? Si vous connaissez l'histoire de pharisiens puis publicains, la parabole que Jésus compte. Lorsque le pharisien se vante et tout ça, puis merci Seigneur, merci Dieu de ne pas m'avoir fait comme ce publicain-là, qu'est-ce que le publicain fait, lui? Il se frappe la poitrine, puis il dit quoi dans notre Louis II? Sois propice envers moi. Et on pense qu'il faisait directement allusion justement au propitiatoire, qui est le coffre sur le dessus de l'arche. Et qu'est-ce qu'il y avait de spécial, ce coffre-là? C'est là que le grand prêtre versait le sang, qui représentait le sacrifice et le pardon. C'est comme si le publicain disait, sois propice par la vertu du sang qui est versé là, en vertu du sacrifice. Et ce lieu très saint-là, le saint des saints ou le lieu très saint, même chose, seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par année. Le jour des expiations. Stéphane en a parlé un petit peu dernièrement. Une fois par année, il y avait une grande fête, le jour des expiations. Le grand prêtre allait là. Il offrait premièrement des sacrifices pour lui-même, comme dit Hébreu. Et après ça, il offrait des sacrifices pour le peuple. C'était le grand jour du pardon, quoi. Répété à chaque année. Jusqu'à la venue de Jésus. Eux autres, probablement, qui continuent à le faire. Nous autres, on n'a plus besoin. Ce lieu-là, comme je dis, seuls les grands prêtres pouvaient entrer une fois par année, ce qui veut dire que, contrairement à ce qu'on voit ici, il y a une petite allusion, mais c'est pour nous montrer, il y avait un rideau, un voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Pour pas qu'on voit ce qu'il y avait derrière, pour pas qu'on ait accès, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y avait sur le voile de dessiner? Des chérubins aussi. Savez-vous quand la première fois qu'on mentionne les chérubins? Genèse 3, sûrement. Lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, il a mis des chérubins pour garder l'arbre de vie, afin qu'ils ne prennent pas de l'arbre de vie puis vivent éternellement dans un état de pécheur. Donc, c'est une bonne nouvelle en passant. Pas qu'on vive éternellement dans cet état-là, mais qu'on va pouvoir vivre éternellement quand même dans sa présence. Donc, les chérubins sont toujours là pour garder la présence de Dieu, pour empêcher. Donc, on avait ce sens-là autour de l'arche, on avait aussi cette signification-là sur les rideaux qui étaient là. Donc, voici les différentes sections du temple de Salomon. J'apporte votre attention sur une petite différence qu'il y avait sur le temple d'Hérode. Le temple qu'Hérode a rebâti, c'était sensiblement la même chose. Oups, excusez-moi. On a quelques petites descriptions. Et ce qu'il y a, c'est ici en bas. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. J'essaie d'avoir le petit pointeur rouge, mais bon. Autour du temple, il avait mis des murs. Je ne sais pas si les murs de lamentation, si c'est le mur du temple en tant que tel, ou bien si c'est un de ces murs-là, mais en tout cas. Il y avait des murs autour du temple, et à l'extérieur de ces murs-là, c'était ce qu'on appelle la cour des gentils. Pas gentils comme avec la Père Noël, parce qu'ils ont été sages cette année, c'était pas ça, là. Les gentils, c'est quoi? C'est les non-juifs. Des gens qui acceptaient la religion juive, qui voulaient adorer Dieu, mais qui n'étaient pas d'origine juive, en d'autres termes. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Et Jésus le citait plus tard quand il a chassé les vendeurs, hein? « Je vais faire de ma maison une maison de prière pour tous les peuples. » Mais les Juifs, eux autres, tous les peuples, ils étaient à l'extérieur de ces murs-là. Et en passant, pourquoi Jésus s'est fâché après les vendeurs du temple? Parce que justement, c'est là que les vendeurs s'installaient pour faire leur commerce, laissant pas vraiment de place à ceux qui voulaient adorer, qui étaient les non-Juifs. Qui voulait adorer, il n'avait plus vraiment de place. Et c'est pour ça que Dieu, Jésus se met en colère et qu'il les chasse pour que ce soit un endroit pour tous les peuples. On comprend peut-être un peu mieux là. Ce qui est écrit ici à tout petit, de toute façon c'est en anglais, on a retrouvé un écriteau qui date, quand ils ont fait des fouilles autour du temple, des ruines du temple, on a trouvé un écriteau qui date du temple d'Hérode. Et ce que ça dit grosso modo, c'est que les non-juifs ne sont pas admis. Si vous traversez cette section-là, c'est à vos risques et périls. En d'autres termes, vous risquez de vous faire lapider par les Juifs, ce qui est arrivé à certaines occasions. Ça peut vous faire comprendre peut-être un petit peu pourquoi les Juifs ont, j'allais dire capoté, mais en tout cas, on va prendre ce terme-là, à bon québécois, lorsqu'ils ont pensé que Paul avait amené un non-juif, un grec, dans le temple. C'était pas dans le temple en tant que tel, les sacrificateurs étaient les seuls, mais dans l'enceinte, la cour autour du temple. Si vous regardez ce croquis-là, le temple, dans le fond, là, on le voit même pas encore. Le temple, il est ici en haut, complètement en haut. Fait que, autour de tout le temple, il y avait toute une muraille, il y avait toute une cour, la cour des Juifs, la cour des femmes, la cour des Israélites, la cour des prêtres. Donc, chaque étape, il y avait de moins en moins de monde qui pouvait aller jusqu'au temple lui-même. Et la queue des sacrifices, l'autel des sacrifices, tout ça, à l'intérieur de cette cour-là ici, où ce que seuls certains Israélites avaient accès, les femmes n'avaient même pas accès. Désolé. Donc, c'était très restrictif. Très restrictif. Et c'est là qu'on arrive au passage que je lisais hier. La dédicace du temple, mais plus précisément la prière de Salomon. À cette occasion-là. Et ça, ça se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 6. La prière de Salomon commence tout de suite au verset 1, mais je ne commencerai pas avec le début. Je vais aller directement au verset 18. 2 Chroniques, 6, 18. OK, j'avais un autre plan ici, c'est vrai. Ce qu'on voit un petit peu mieux, ça, c'est le plan du temple d'Hérode aussi. Vous voyez, à gauche, complètement, ce qui est en jaune, c'est le temple en tant que tel, et tout le reste, c'est des murs qui sont autour. Des sections. Donc, on ne voit pas l'extérieur, c'est pour ça que je n'ai pas montré celui-là. On ne voit pas l'extérieur autour, qui est la cour des non-juifs, mais à l'intérieur, vous voyez la cour des femmes. L'autre bord de ça, il y a la cour d'Israël, qui était située juste au bord des murs, mais aussi tout le tour, où ce que les juifs avaient accès. Et après ça, bien, au relotel, c'est vraiment juste pour les prêtres, et bien sûr, dans le sanctuaire aussi, uniquement les prêtres ou les sacrificateurs, synonyme. Donc, 2 Chroniques 6, 18. Salomon prie, il arrive ici, mais quoi? Parce que là, il parle que, bon, Dieu l'a béni et tout ça, il a accompli sa promesse, il a permis qu'il construise un temple comme il avait promis à David, son père. Une maison pour le faire habiter. Et, verset 18, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Est-ce que Dieu habiterait véritablement avec l'homme sur la terre? On peut dire que la réponse est oui. Il est présent. Présent en esprit, présent physiquement. Il a même été présent parmi les hommes d'une façon que il n'aurait même pas imaginé à cette époque-là. Est-ce qu'il habitera véritablement sur la terre, avec les hommes sur la terre? Voici ce qu'il avait en tête, dans le fond. Voici les cieux des cieux. Les cieux et les cieux des cieux, pardon, ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. En d'autres termes, le but du tabernacle, du temple, par la suite, c'était d'avoir la présence de Dieu. Salomon est pleinement conscient, par contre, que cette bâtisse-là qui est faite, peu importe la beauté, comment elle est grandiose, à l'époque, c'était probablement la plus belle merveille du monde, si on peut dire ça. Les gens venaient de l'extérieur, de d'autres pays, pour le voir. Il était bien conscient que ça, c'était passé pour contenir Dieu. Dieu plus grand que ça. Même les cieux des cieux ne sont pas capables de le contenir. C'est donc une image, c'est donc un esprit qui va être présent parmi le peuple, mais qui est bien plus grand que ça. On ne peut pas le contenir dans une petite boîte, on ne peut même pas le contenir dans un grand lieu non plus. Si les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir, même la terre au complet ne peut pas le contenir. Donc, Salomon est quand même conscient de ça. Il poursuit par la suite, et on ne lira pas tout, ça serait trop long, mais il poursuit par la suite avec un paquet de, comment dirais-je, situations possibles qui pourraient arriver. Un exemple, verset 22-23, « Si un homme pêche contre son prochain, et vient au temple, se repent, demande pardon et tout ça, pardonne-lui, restaure-lui. » Donc, c'est un petit peu ça tout le long. S'il arrive telle chose. Verset 22, 23, je n'ai pas devant moi, mais vous l'avez peut-être ceux qui ont tourné. Donc, l'homme qui pêche contre son prochain. Verset 24, 25, si le peuple subit la défaite contre ses ennemis, parce qu'il a péché, mais qui revient vers toi, qui se repent, restaure-le. C'est toujours la même chose. Restaure-le, pardonne-le, donne-lui la victoire, etc. Après ça, il parle de la sécheresse, la famine, la peste, les sauterelles. Les sauterelles, c'est assez important à l'époque, hein? Si vous lisez Joël, entre autres, et tout ça, les sauterelles ravageaient des champs complets. Ça pouvait être un ennemi. Regardez un des fléaux d'Égypte aussi. Si tout ça frappe, mais qu'ils se repentent, pardonne et restaure. Donc ça, c'est verset 26 à 31. Il arrive au verset 32, et là, il y a quelque chose de spécial un petit peu. Enfin, je n'avais pas de place pour le mettre, mais bon. Verset 32, je ne l'ai pas écrit. Mais ce qu'on a, j'ai écrit une partie dans le fond du verset. « Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux. » Quand l'étranger. J'ai trouvé ça spécial parce que on a vu avec le temple d'Hérode, hein? L'étranger, OK, si tu acceptes la religion juive, mais de loin, de très loin. Mais déjà à l'époque, quand il a fait la dédicace, Salomon prophétisait, si on peut dire ça comme ça, voyait plus loin, un jour pas mal plus lointain. Ou est-ce que c'était pour changer ça? Hein? Et ça, dans le Nouveau Testament, on en parle. Le jour où les étrangers, entre guillemets les non-juifs, vont être un seul peuple. J'ai pris quelques versets, entre autres, Galates. On va revenir à des chroniques tantôt. Gardez votre doigt là si vous tournez, mais Galates 3, versets 26 à 29. Paul qui parle, « Car vous êtes tous fils de Dieu, fils et filles, hein, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. » Autrement dit, ni juif ni grec. Grec, c'était tous les autres. Hein? Ou il y a d'autres versions qui vont dire ni barbares, parce que pour eux autres, tous les non-juifs, c'était des barbares. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Il dit ailleurs, hein, on n'était pas, hein, on était étrangers. Maintenant, on fait partie du peuple de l'Alliance. On fait partie du peuple de Dieu, plus que ça même. On est les enfants de Dieu. Wow! Dans Éphésiens 2, on a le fameux passage sur les œuvres et tout ça, mais ça continue. Hein? Versets 11 à 19. « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair. » C'est nous autres, ça. On était païens dans la chair, dans le sens qu'on ne fait pas partie du peuple de Dieu. Israël, de façon absolue, mais même le peuple de Dieu d'aujourd'hui, à notre origine. Hein? Appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Les Juifs, en d'autres termes, incirconcis, tous ceux qui ne faisaient pas partie de l'Alliance. Sur qui ils devaient le nez, sans problème. Hein? Et qu'ils sont à la chair par la main de l'homme, les circoncis qu'on parle. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Souvenez-vous. Vous en souvenez-vous, une fois? Je parle avec certaines personnes que je nommerai pas. Il y a une grande barbe, en tout cas. Mais... Je sais pas, OK? C'est pas Jocelyne, en tout cas. Hein? D'où est-ce qu'on a été pris? Où est-ce qu'on était avant? Souvenez-vous de ce temps-là. Hein? Sans Christ, privé du droit de cité en Israël, ou du droit d'être la présence de Dieu, si vous préférez, qu'on ne faisait pas partie du peuple. Étranger aux alliances de la promesse, étranger à l'amour, étranger à la vie dans la présence de Dieu, étranger à l'accès qu'on a à la prière, etc., etc. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Il y en a pour qui, avant de devenir chrétien, c'était la grosse misère. C'est pas dur de se rappeler. Puis ils regrettent certainement pas. En tout cas, je l'espère. Pas faire comme les Israélites, hein? Qui étaient dans la grosse misère, puis esclaves, qui voulaient sortir de là, puis un coup qui était sorti de là, voulaient retourner. J'espère que quand vous vous souvenez de ça, c'est pas pour retourner. D'autres, ça allait pas si mal que ça. Il y en a que ça allait bien. Puis merci Seigneur qu'il y en a qui sont venus à lui sans être obligés d'être renfoncés au plus profond et tout ça. Montrer que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu va surpasser tous les soucis, toutes les choses du monde. Tant mieux. Il y en a des gens riches, il y en a des gens qui sont bien en santé, etc., qui viennent à Dieu. Aucun problème avec ça. Absolument pas. Montrer que Dieu est plus grand que toutes ces choses-là. Mais souvent... C'est dans la misère qu'on se tourne vers Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est plus facile de prendre conscience de notre besoin. Merci Seigneur pour ceux qui se rendent compte de leurs besoins sans être dans la misère. Mais c'est plus difficile. Comme Jésus dit, hein, c'est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent plus autosuffisants. Tout simplement. Mais le royaume des cieux est ouvert à eux autant qu'aux autres. Mais maintenant, mais en français, opposition, hein? Vous étiez tout ça, mais maintenant, c'est plus le cas. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés, deux opposés, hein? Par le sang de Christ. Pas par vos œuvres, comme il dit quelques versets plus haut, pas parce que vous avez fait, pas parce que vous le méritez, j'allais quasiment dire, pas par amour pour Dieu, parce qu'on n'en avait pas avant, pas à cause de l'amour de Dieu. Bah, oui et non. Si l'amour de Dieu a toujours été là, il nous a tellement aimés qu'il a offert son Fils unique. Par contre, si ça aurait été, ça aurait arrêté juste l'amour, il n'aurait pas pu pardonner à cause de sa justice. Fait que c'est par le sang de Jésus qu'on était rapprochés. Car il est notre paix. Il, c'est Jésus. Hein? Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Les deux peuples, les Juifs et les non-Juifs. Hommes-femmes, riches-pauvres, libres-esclaves, qui mentionnait plus haut. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. ce qui nous séparait. Lors de sa mort, hein, vous savez ce qui s'est passé? Le fameux voile du temple qu'on parlait tout à l'heure, s'est déchiré en deux. La séparation qu'on avait, puis là. Séparation entre nous, entre Juifs et Grecs, c'est peut-être ça qui parle ici, mais la séparation de nous envers Dieu aussi. La présence de Dieu est maintenant ouverte. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il y avait une inimitié entre les Juifs et les non-Juifs. Même avec les Juifs et les Samaritains, hein, si vous vous rappelez, qui étaient pourtant à moitié Juifs. Je ne sais pas si je devrais dire ça parce que c'est enregistré, mais en tout cas, Hitler n'a pas inventé ça. Hein? La race parfaite. C'est ce que les Juifs vivaient un petit peu avec les Samaritains. Hein? Les Samaritains n'étaient pas purs. Ils étaient mélangés avec d'autres peuples. Donc, les Juifs le gardaient de haut. Ils ont subi malheureusement, pas pour ça du tout, mais ils ont subi un peu ce qu'ils ont fait subir aux autres. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts. Car par lui, par Jésus, les uns et les autres, ceux qui étaient les moins et ceux qui étaient prêts, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, les gens de la maison de Dieu. Donc, vous n'êtes plus des étrangers, je ne suis plus un étranger. Quelqu'un de l'extérieur, je fais maintenant partie de la famille. On mange à la table à tous les jours. Ce n'est pas juste une fois de temps en temps qu'on est invité. Hein? Oui, le repas du Seigneur, on le mange une fois par mois, mais à tous les jours, on est dans la présence de Dieu. Donc, il y avait à la tête, Salomon sans le savoir, mais Dieu l'avait déjà mentionné de toute façon, que c'était une maison pour tous les peuples. Il y avait en tête, nous aussi, à long terme. Et là, le chapitre continue, si je reviens à 2 Chroniques 6, avec d'autres exemples et d'autres exemples et d'autres exemples. Ce qui me touchait quand je lisais ça, c'était la prière. Comme je vous dis, je ne vais pas prendre le temps de tout le lire. Mais chaque chose qu'il mentionne, vous allez voir au chapitre 7 que Dieu répond à ces choses-là. La prière est efficace, importante et efficace. Est-ce que Dieu a répondu à ce que Salomon disait parce que Salomon l'a demandé? Ou est-ce que Dieu avait déjà ça, le prévu, il avait déjà ça en cœur et c'est pour ça qu'il a inspiré à Salomon de prier ça? Hein? Débat. Nouveau Testament dit que si on prie selon sa volonté, qu'il nous écoute. Quand on est dans sa volonté, est-ce qu'on peut douter qu'il va répondre? On ne devrait pas. On ne devrait absolument pas douter. Je ne dirais pas qu'on pêche, je pourrais quasiment le dire, mais en tout cas, qu'on pêche si on doute. Mais on remet en doute ce que Dieu dit, parce que ce que Dieu dit, c'est clair. Ils sont pris selon sa volonté, qu'il va répondre. Et là, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas, bien, c'est facile, c'est sûr. Si tu veux faire telle affaire puis tu pries pour ça, il a déjà décidé. C'est sûr qu'il va le faire. On prie selon sa volonté. Non, pas dans ce sens-là. Selon sa volonté, on en a déjà parlé, je pense, il y a un message là-dessus. Fouillez. Connaître la volonté de Dieu. Ça passe par différentes choses, mais entre autres, conforme à sa parole, être dans ses voies, etc., etc. De faire de Dieu nos délices, quoi, comme dit le psaume. Il y a des conditions à ça. Hein? À ce moment-là, il répond. Vous pourrez aller voir le message sur la volonté de Dieu, si vous voulez. Il est en ligne, assurément. Et au chapitre 7, on a la réponse de Dieu. Encore une fois, je ne lirai pas tout le chapitre, mais je vais aller au verset 12 quand même, et verset 12 à 15. Belle réponse de Dieu. Et puis, quand j'étais plus jeune, j'avais une cassette de Jeunesse en mission qui s'appelait comme ça, justement, « Si mon peuple ». Et c'était ce verset-là de façon quasiment comme si c'était Dieu qui parlait du ciel. Une voix quasiment de tonnerre, si je peux dire ça comme ça. Fait qu'à chaque fois que je le lis, ça se peut que vous voyez hésiter un peu, là. J'ai des frissons à cause de ça. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il dit, verset 12? « J'exauce ta prière. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devrait m'offrir des sacrifices. » Et n'oubliez pas tout ce que je vous dis depuis le début, hein? On parle du temple, mais tout ça pointe vers le futur. Fait que tout ce qu'on voit là, pensez à aujourd'hui aussi. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, sécheresse, famine et tout ça. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, parce que c'est arrivé. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, en d'autres termes, quand il va y avoir des malheurs. Parce que Dieu, oui, il a promis que s'il était pour garder son alliance, lui aussi garderait son alliance, mais s'il était pour le régner, qu'il enverrait toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu colérique et méchant. Non. Parce qu'il voulait ramener à lui. Et il était patient, et patient, et patient, et patient. Si vous lisez comme il faut, les Samuel, le roi, chronique, il était patient. Il voulait que le peuple revienne à lui. Et dès qu'il y avait une petite lueur d'espoir, il retardait le jugement. Mais quand même, pour les ramener à lui, il a fait ces choses-là. Fermer le ciel pour qu'il n'y ait plus de pluie, qu'il y ait de la famine, de la sécheresse. Les sauterelles qui ont consumé le pays, la peste parmi mon peuple. Mais si j'envoie toutes ces choses-là, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. C'était une des conditions que Salomon mentionnait dans sa prière, hein, qui retourne vers Dieu. Dieu est toujours prêt, Dieu est toujours prêt à pardonner, à nous accueillir, à nous reprendre, peu importe ce qu'on a fait. Mais il y a des conditions quand même. S'humilie, prie et cherche ma face. Ça parle d'un état, du cœur, d'une attitude. Mais ça ne suffit pas d'avoir l'attitude. Il rajoute d'autres choses aussi. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est pas juste de vouloir, il faut le faire aussi. On retourne constamment dans les mauvaises habitudes parce que oh, Dieu est miséricordieux, il va pardonner, il n'y a pas de problème. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein? Oui, première étape, c'est de s'humilier, prier, chercher ma face, mais aussi il faut s'en détourner. Pas par nos propres forces, mais il faut quand même le faire. Si le peuple fait ça, qu'est-ce que Dieu promet? Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, la chose la plus importante, mais aussi je guérirai son pays, ou rétablirai, autrement dit, comme c'était. Et guérirai ici, en passant, je ne sais pas, là, il y a un verbe dans le Nouveau Testament, enfin, je ne sais pas si c'est l'équivalent dans l'Ancien ici, mais c'est restaurer, hein? Remettre complet, rétablir comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. C'est probablement ça l'idée ici. Mes yeux, verset 15, seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu, dans le temple. Livre des Chroniques, l'auteur du livre des Chroniques, c'était un seul livre à l'origine, dans le fond, il avait un but bien précis. Donner de l'espoir. Parce qu'on est pas mal convaincu qu'il a été écrit à l'époque du retour de la déportation à Babylone. C'est pour ça qu'il rappelle ce qui s'est passé dans les rois, dans les Samuel. C'est clair quand l'auteur s'adresse aux gens qui s'attendent à ce qu'ils soient connaissants déjà de ces choses-là. Parce qu'il résume, puis il saute bien des parties, puis tout ça. Donc, il s'attend que les gens connaissent déjà ces histoires-là. Alors, c'est un résumé, c'est un rappel, mais c'est surtout un message d'espoir. Un message aussi pour dire, maintenant que vous retournez dans le pays, voici comment ça doit se passer, comment vous devez faire les choses. Il parle beaucoup d'unité du peuple. Rappelez-vous qu'à cette époque-là, retour de la captivité, Israël et Juda étaient deux séparés, deux sections séparées. Donc, beaucoup de messages d'espoir. Et ça, j'ai trouvé ça spécial. Hein? Dieu présente, Dieu va restaurer, Dieu va ramener, Dieu va remettre comme vous étiez avant dans la prospérité. Pas nécessairement matérielle, mais la prospérité, la relation avec Dieu. Message d'espoir. Et puis, on est en décembre. Ça me fait passer le temps des fêtes qui approche. Hein? Message d'espoir qu'on a nous autres aussi. On va fêter bientôt. On la fête à tous les jours, je pense, j'espère, en tout cas. Mais on va fêter de façon plus officielle, de façon plus mondiale, disons-le comme ça, la naissance du Sauveur. Quel est l'espoir là, hein? Quel espoir on a là? Dieu, quand il apparaît à Joseph à cause de Marie tombe enceinte et tout ça, lui hein, dit, hein, « C'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. » Tout un espoir, ça. Tout une espérance. Mais plus que ça, les anges qui apparaissent aux bergers dans le champ, hein, quand ils voient ça, les bergers tombent sur leur face, prennent panique. Mais un des anges qui était là, ben l'ange qui était là, dans le fond, il était joint après, il dit quoi? « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. » Une bonne nouvelle. Évangile veut dire bonne nouvelle, hein? On a les quatre évangiles, la bonne nouvelle du Seigneur. Une bonne nouvelle, c'est pas négatif, n'ayez pas peur, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une petite joie, d'une grande joie. Est-ce que c'est le sujet d'une grande joie pour vous autres ce matin? Hein? Ouais. Non, une grande joie. Une grande nouvelle, une bonne nouvelle qui va être le sujet de notre grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Qui est le Christ, le Seigneur. Ça veut dire quoi pour eux autres, c'est un sauveur qui est le Christ, le Seigneur? Bon, c'est sûr qu'il avait l'aspect du Messie. Christ, oui, Messie, c'est toute la même chose. C'est le même mot. Donc, celui que vous attendiez vient de naître. C'est-tu pas une bonne nouvelle, ça? Le Sauveur, le Seigneur, en même temps, parce que c'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même, vient de naître. C'est ça qu'on va annoncer dans les prochains jours. Si c'est le sujet, si c'est une bonne nouvelle, si c'est un sujet d'une grande joie, c'est-tu normal qu'on s'est gêné d'en parler? On a honte d'en parler? Les anges ont proclamé dans le ciel, il y a toute une cohorte qui s'est jointe à eux autres après ça pour proclamer, louer dans le ciel. Et nous autres, on ne veut pas en parler, par exemple, parce que c'est gênant, on peut faire rire de nous autres. Ayons pas peur d'en parler. Ayons pas peur. On n'a plus le droit de nos jours. Hein? Au Québec, on n'a plus le droit. Je voyais sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est en vigueur ou si ça s'en vient ou quoi, là, mais on a le droit de mentionner Noël, mais on n'a pas le droit de mentionner Jésus. On peut mentionner le Père Noël, mais pas Jésus. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, si c'est des fausses rumeurs, mais si c'est le cas, désolé, mais ça ne m'empêchera pas de le faire. Non. Noël, c'est la naissance. La naissance de quoi? De l'amour, du bonheur des enfants? Non, non. C'est la naissance, celle de Jésus. Mais ça, ça ne changera pas pour moi. C'est ça que je vais proclamer tout le temps. C'est enregistré, fait que c'est pas grave. Donc, je reviens rapidement vers la fin. Je vais essayer d'avancer vite. Oh boy, OK. Le temple, ça représente quoi? On vous le disait, ça représente la présence de Dieu et tout ça. Mais c'est quoi la relation de Jésus avec le temple? Ça représente Jésus. Ça pointe vers Jésus, le temple. On parlait tout à l'heure de quoi? Je ne sais pas si je l'ai remis finalement. Oui, OK. Ben, je cite ici, écoute. La présence de Dieu. On parle de la présence de Dieu dans le temple, hein? C'est une des choses qu'on voulait, tabernacle et temple. Mais qu'est-ce qu'Isaïe nous dit? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Si on appelle cet enfant-là Dieu puissant, Père éternel, c'est Dieu avec nous. Qu'est-ce qu'il dit ailleurs, justement, dans Isaïe et dans Matthieu? On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Est-ce que Jésus représente Dieu avec nous? Tout à fait. La présence de Dieu, comme le temple était. Pardon. Le temple, si je reviens rapidement, sacrifice, purification, hein, la cuve et l'autel, pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, ça prend quoi? Même chose aujourd'hui. On ne peut pas rentrer dans le lieu saint, on ne peut pas rentrer dans le temple, on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu sans voir passer par le sacrifice de Jésus et par le fait qu'il nous purifie. Jésus dit quoi? « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ça prend ça. Pas d'accès au temple si on n'a pas passé par là. Pas accès à Dieu, à la vie éternelle, à la présence de Dieu si on n'a pas passé par là. C'est un prérequis, un must. Bien sûr, le sacrifice, c'est celui de Jésus, puis c'est lui qui nous purifie. Purifie par le baptême qui était l'ablution, dans le fond, plonger les mains, tout ça. Ils appellent ça un baptême. Enfin, je ne vous dis pas qu'aujourd'hui, vous devez être baptisé pour être sauvé. Mais si vous êtes sauvé, vous devriez passer par les eaux du baptême. C'est un commandement aussi, en passant. Petite parenthèse. On rentre dans le temple, dans la présence de Dieu. Comme en deux étapes, si on peut dire. Hein? Parce que la vraie présence de Dieu, c'était le lieu très saint. On ne pouvait même pas aller là. Mais bon, le lieu saint, c'était quand même la présence de Dieu de façon... C'était le reflet un peu de la présence de Dieu, si je peux dire ça comme ça. C'était pas la présence 100%. Mais qu'est-ce qu'on avait dans l'enceinte du temple ici, si vous vous rappelez, si je vais vite? Chandelier, les sept esprits. On en a parlé tout à l'heure. On en reparle dans l'Apocalypse. Jésus qui s'adresse aux sept églises avec les sept esprits de Dieu. On avait le pain de proposition avec le vin. Hein? Je me rappelle assez clairement. Sacrifice de Jésus. Et on avait quoi? L'autel d'encens, qui sont les prières des saints, que l'Apocalypse nous dit. Il y a juste un petit problème avec ça. C'est que seuls les sacrificateurs pouvaient rentrer là. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Je ne sais pas si je l'ai ici. OK, ouais. Jésus parle de son temple, son corps, mais voilà. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Pourquoi? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. OK, je pense que je n'ai pas pris de... Ou j'en parle plus tard, en tout cas, j'essaie d'aller vite. Mais c'est clair que nous sommes maintenant les sacrificateurs. Donc, on a maintenant accès. OK, oui, Apocalypse ici, je l'ai cité, mais je ne l'ai pas écrit. Apocalypse 1, 6, 5, 10. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, dans 1, 6. Donc, on est maintenant tous des sacrificateurs, tous des prêtres, puis on a accès au lieu saint. On a accès à ça. Donc, on a accès à voir les prières qui montent vers Dieu aussi, puis qui exaucent ce qu'on avait dans le lieu saint. Mais le lieu très saint qui est là où ce que Dieu se tient, qui est là où ce qu'il y a le pardon, parce qu'on verse le sang sur le propitiatoire, que même les sacrificateurs n'avaient pas accès. Qui avait accès? Le grand prêtre. Et si je résume rapidement, c'est qui le grand prêtre selon Hébreu? Jésus, c'est notre grand prêtre. C'est lui qui a été devant Dieu pour porter son sang. C'est lui qui a été devant Dieu pour plaider pour nous, pour le pardon. C'est notre grand souverain sacrificateur qui a été devant Dieu. Mais devinez quoi? Quand ce grand souverain sacrificateur-là est mort, Le voile s'est déchiré. Fait que maintenant, il n'y a plus juste lui qui a accès à Dieu. Par son sang, nous autres aussi, on a accès. Je ne vous dirai pas qu'on est des grands prêtres, il y a un seul grand prêtre, mais on a quand même accès directement à Dieu. On a, mes frères et sœurs, directement accès au trône du roi des rois. Vous savez, hein, vous avez vu dans l'époque médiévale ces choses-là, c'est pas n'importe qui allait devant le roi. Fallait être appelé, fallait avoir une bonne raison, fallait ci, ça, ça. Et si le roi décidait, rappelez-vous dans le livre d'Esther, si le roi décidait que, non, toi, tu n'as pas d'affaires ici, tu pouvais y aller au péril de ta vie devant le roi. Le respect était là, l'autorité était là. Est encore là. J'espère que le respect et l'autorité est encore là, mais on a accès. Il nous a ouvert l'accès. On a accès, on fait partie de la famille. Il nous a ouvert l'accès au lieu très saint. Il nous a ouvert accès à aller vers Dieu directement. On a accès à lui offrir nos prières, puis il nous écoute. Mais plus que ça, tu peux aller chercher peut-être Christian, chérie, si tu veux. Là. Je vais essayer de conclure assez rapidement. Plus que ça, nous-mêmes, maintenant, on est le temple du Saint-Esprit. Le temple, c'est plus un temple physique comme ça. Tout ce que Jésus a fait représentait ça. Dans le fond, ça pointait vers Jésus. Mais maintenant, nous, les croyants, on est le temple du Saint-Esprit. Qui représente quoi? La présence de Dieu. On l'a dit tantôt. Dans nos vies. Donc, c'est ce que je mentionnais tantôt, hein? Nous sommes le temple du Dieu vivant. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et on peut prendre ça de façon générale pour l'Église. Il est au milieu de son peuple. Il marche au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous. Et c'est pour ça que je cite 2 Corinthiens avant 1 Corinthiens, parce qu'il est présent au milieu de l'Église, mais il est présent au milieu de chacun d'entre vous aussi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Comme il dit ailleurs, hein, prenais-je le temple pour en faire un avec les prostituées ou l'abîmer ou quoi que ce soit. Ayons un respect pour le temple qui est nous-mêmes, qui est le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu habite maintenant dans l'Église. Dieu habite en chacun de nous par le Saint-Esprit. Fait que le temple grandiose, tout en est d'or, avec tous les symboles qu'il y avait, on l'a en nous maintenant. On est ce temple-là. Dieu se plaisait dans le grand temple grandiose, tout orné d'or, magnifique. Il se plaisait avant ça dans le tabernacle, beaucoup plus simple. Oui, magnifique aussi, honnêtement, pour l'époque et tout ça, mais pas grandiose, orné d'or et tout ça. Les ustensiles l'étaient, mais pas les murs, etc., comme dans le temple. Et il se plaît, je vous dirais pas grand-chose, parce qu'il se plaît de vivre en nous, des créatures limitées. On est le temple du Saint-Esprit. Le temple physique, c'était l'ombre des choses à venir. C'est mentionné aussi même dans l'Apocalypse. Maintenant, on n'a plus besoin de ça. On accède directement à Dieu. De différentes façons, en nous, comme je vous ai dit, par la prière, etc. On a directement accès à Dieu. Parce qu'il vit dans chacun de nous autres. On est son temple. Mais on va plus loin que ça. Un jour, on va pouvoir dire la même chose qui est écrite dans Apocalypse, et je termine avec ça. Apocalypse 21, verset 22-23, il parle de la ville, la Jérusalem céleste qui descend du ciel. Et qu'est-ce qu'il dit? Je ne vis point de temple dans la ville. Pourquoi? Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Le temple représentait la présence de Dieu. Bientôt, on n'aura plus besoin de représentation, on va être dans la présence de Dieu, avec lui. La ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car sa gloire, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. On va être dans sa présence, dans le temple, qui est lui-même le temple, tous ensemble. Donc, c'est un espoir, c'est un message d'espoir, c'est un message aussi de purification jusqu'à un certain point, comme je vous disais tantôt. Hein. Il faut prendre soin du temple. Autant d'en prendre soin physiquement, d'en prendre soin moralement aussi, de toutes ces choses-là. Donc, encouragement pour vous. J'espère que vous avez aimé ça autant que moi quand je l'ai lu. au niveau de ce que ça représente, toutes ces choses-là pour nous, le temple. Donc, je vais inviter l'équipe de louanges à venir pour le dernier chant.